Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour un livre qui m'a beaucoup émue. Je suis allée à la rencontre de femmes courageuses et vaillantes durant la Seconde Guerre mondiale. Elles ont parcouru les chemins, l'exode, se sont occupées de leurs enfants. Il a fallu se battre pour vivre, pour survivre, malgré toutes les difficultés. Pour nous parler de ce livre, avec autant d'émotions, de détails, toujours cette belle écriture, élégante et raffiné. Je suis toujours heureuse de l'accueillir parce qu'il nous raconte toujours de belles histoires avec de beaux personnages. Il émet toujours un peu de son histoire avec toujours beaucoup d'émotion et aussi beaucoup d'élégance. Bonjour Maurice de Kervé-Noël.
Oui, bonjour Claudine Bugat.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes pour votre dernier roman, La ferme des Goulevents aux éditions de l'Archipel. Je disais, on a l'habitude de vous recevoir maintenant à ce micro, notamment voilà, le destin des Laennec, le manoir des Laennec, l'honneur des Laennec. La dernière fois, c'était pour les Braises du Souvenir sur ce roman très très émouvant sur la guerre d'Algérie. Là, on vous retrouve à la ferme des Goulevents, dirais-je, avec une héroïne qui est formidable, avec toutes ces femmes. Et puis, il y a Maïté, il y a Esther, et puis... Lilibeth, Cécile et Lilibeth et puis leurs enfants et tout ce qui va leur arriver. Vous me disiez hors antenne que vous y avez mis 20 à 30% de votre histoire. Malgré tout, ces femmes, leur histoire, ça a été l'histoire de beaucoup d'autres femmes durant l'exode, durant le début de la guerre et par la suite.
Je pense que d'abord, beaucoup de petits garçons, comme je l'étais, oui, se sont trouvés sans père. Parce que moi, dans mon cas, mon père était officier de marine, sous-marinier, et comme je le dis, il était plus sur l'eau et sous l'eau qu'à la maison.
Oui.
Beaucoup d'hommes, malheureusement, étaient tués, d'autres étaient prisonniers. Et donc, cette génération à laquelle j'appartiens a été pour partie élevée par des femmes. Mmh. Et en même temps, on a été très frappés que les femmes... dans un système qui, jusque-là, était très patriarcal. Il y avait papa lieutenant et maman lieutenant de papa, si
c'est
vous
ça.
Voulez.
C'est ça.
Et que les femmes se débrouillaient très bien avec l'autorité, que c'était même une autorité douce, plutôt plus agréable que l'autorité rugueuse de mon père.
Mm-hmm.
Et donc, je pense que les femmes que je décris, il y en a eu beaucoup, avec bien sûr des traits de caractère et de milieux différents, mais beaucoup qui ont vécu des expériences similaires à celles que je décris.
Tout à fait. Alors, Lilibeth, donc, il y a ses amies, hein, on le disait, Cécile, Maïté et Esther. Elles sont toutes trois de milieux politiques, religieux différents, mais au-delà d'adversité, elles vont se retrouver. Et puis, bien, il va falloir pour Lilibeth qu'elle s'en aille parce que ça n'est plus tellement tenable. Là, elle se trouve, elle va partir en exode. Elle va s'arrêter à la ferme en Sologne de Maïté. Il y aura de nombreux soubresauts, de nombreuses surprises. Et puis, il va falloir continuer, se battre. C'était quand même très périlleux de partir sur les routes à ce moment-là. Très dangereux.
C'était d'autant plus fou. Alors là, pour le coup, c'est un passage qui est très autobiographique.
Oui.
Mon père, au-delà des règlements, avait téléphoné à ma mère pour lui dire que l'état-major à laquelle il appartenait à ce moment-là allait se replier sur Bordeaux et ça s'arrêterait à Montbazon.
Mmh.
Mais il n'avait absolument pas précisé la date ni combien de temps. Et quand les Allemands sont arrivés, que ma mère, par miracle, a réchappé à un bombardement en se réfugiant sous une table dans un café alors que les vitres tombaient, elle est revenue et elle nous a dit « il faut qu'on parte ». Et donc on avait une grosse voiture, une Hotchkiss d'occasion.
Mmh.
On a mis des matelas sur le toit et puis on était 8 avec les enfants, ma grand-mère, etc. On a pris la route. Alors, je ne vous décris pas l'exode parce que ça a été très décrit, mais j'ai vécu comme enfant les Stutka qui mitraillaient en rase-motte, les embouteillages, les pannes d'essence et autres. Mm. Et on n'avait absolument aucune certitude de retrouver mon père. Et arrivé à une dizaine de kilomètres de Montbazon, la voiture tombe définitivement en panne sèche.
Mm-hmm.
Maman, à ce moment-là, part avec mon frère aîné, qui, moi j'avais 4 ans, il en avait 14, part avec un bidon à la main pour essayer de faire du stop et trouver de l'essence. Et à ce moment-là, miraculeusement, une voiture d'officier de marine s'arrête. Et ils disent à ma mère, mais Madame de Kervé-Noël, mais votre mari vous cherche. C'était déjà incroyable qu'il soit là. Alors, ils prennent maman en stop, ils l'amènent à Montbazon, retrouvaille émue avec mon père qui nous... Voilà.
Mmh.
Et là, deuxième miracle. Irak. Mon père, qui devait partir le soir même ou le lendemain avec tous les états-majors pour Tours, avait appris le matin même que, comme il était un spécialiste des torpilles, comme sous-marinier,
Oui.
il devait se rendre d'urgence à Lorient pour mettre hors de combat, hors de service, les torpilles du port de Lorient pour qu'elles ne tombent pas dans les mains des Allemands. Et donc voilà mon père qui se trouve avec un laissez-passer, prenant exactement la route que nous prenions pour aller en Bretagne, et il prend le volant et il nous emmène. Donc il y a eu une espèce de double coïncidence, un
Oui.
qu'on tombe pile poil sur lui à 2 jours près, et qu'ensuite, au lieu d'aller à Tours, il partait en Bretagne et qu'il puisse nous emmener. Et donc à ce moment-là, on a continué la route. Et comme petit garçon, j'ai un souvenir assez effrayant, parce que on roulait de nuit sans phare à cause des avions allemands.
Ouais.
Mon père donnait un petit coup de phare dans les virages pour pas se avoir un accident. Et on a été à 3 reprises arrêtés par des barrages, parce que la gendarmerie, aidée par des paysans avec leurs fusils, arrêtait les voitures parce qu'on recherchait les déserteurs. Et quand ils voyaient arriver cette grosse voiture bourrée de femmes et d'enfants avec un officier en uniforme au volant,
Oui.
ils étaient convaincus que mon père était un déserteur, et je revois les visages haineux des gens, les fusils. Puis mon père sortait leur ordre de mission, et à ce moment-là, tout le monde s'écartait. Donc, si vous voulez, c'est des souvenirs qui sont restés pour moi très vifs.
Oui, j'imagine. Je m'en rends compte en tout cas. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec ces femmes, c'est qu'on le disait différentes politiquement, socialement, religieusement, mais au-delà de l'adversité, ça va être une vraie communauté d'amitié, un relais amical tout au long de l'exode, dans l'accueil. On gardera bien sûr ce qui va se passer dans la ferme des Goulevents, ce qu'il y a autour, parce que finalement, il faut laisser aux soins aux auditrices, auditeurs de découvrir ça. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce lien, cette amitié au-delà des différences. Tous les murs tombent en fait. On ne vit que pour le moment, que pour se sauver, se secourir au-delà des différences. Il n'y a plus ça justement.
Oui, mais ça aussi, je l'ai vécu de façon assez intense, c'est-à-dire que avant la guerre, c'était spécialement marqué entre deux guerres,
Oui.
les différences sociales étaient très marquées, si vous voulez, entre la bourgeoisie, l'aristocratie, les ouvriers, les paysans. Et pendant la guerre, d'un seul coup, ben, il y a eu une espèce d'entraide, et c'est le côté humain qui a prédominé.
Oui.
Alors, ces femmes, pour la plupart d'entre elles, pour 3 d'entre elles,
Oui.
avaient tout en commun le goût du dessin, et elles s'étaient
Oui, la
connues
peinture,
à
c'est
la
la
grande
peinture.
chaumière, c'est
Oui.
ça, en prenant des cours de dessin. Mais ce qui m'a frappé aussi, parce que je l'ai vécu, il y avait des choix politiques très différents, si vous voulez. La majorité de la France croyait au maréchal Pétain, était pétainiste et tard pendant la guerre. Il y en avait d'autres, très peu, qui avaient entendu l'appel du général de Gaulle du 18 juin.
Oui.
Mais malgré ces différences idéologiques, ben, on se retrouvait pour faire face au froid, à la difficulté de s'alimenter, aux cartes d'alimentation, à l'absence de véhicules.
Oui.
Et il y avait une vraie solidarité qui dépassait les frontières sociales ou religieuses.
Oui. Alors, Lilibet aussi va se retrouver face aux problèmes financiers aussi pour s'alimenter, s'approvisionner. Ça va devenir un vrai problème. La ferme du Goulevent, on va dire, on s'est tourné un petit peu autour, mais ça va être quand même quelque part un peu une pause, une forme de comment dirais-je, de pause de la guerrière. Et pourtant, ça n'est que le début, parce qu'il faut continuer. Il va falloir repartir.
Il faut d'abord vous dire que la ferme des Engoulevents jouera un rôle plus
Oui.
important dans les tomes 2 et 3.
D'accord.
Et pour les lecteurs ou lecteurs ou auditeurs qui sont moins au courant, les Engoulevents, ce sont des petits rapaces.
Oui.
Il y en a beaucoup en Bretagne, dans les ruines ou dans les landes. Et c'est des rapaces qui se nourrissent en volant de petits insectes. Et en vieux français, ils engoulent le vent, ils avalent le vent.
D'accord.
D'où
D'où
le nom.
l'expression. C'est
Et
très
donc,
joli, hein? C'est très joli.
c'est une ferme et un manoir complètement perdu dans la lande, à
Ouais.
la limite du Finistère et du Morbihan.
Ouais.
Et ce sera un endroit de refuge où, pendant la guerre, eh ben, Lilibet, l'héroïne principale, et ses amis se cacheront, se protégeront, parce qu'il y aura assez peu d'interventions des Allemands à cet endroit même.
Oui.
Alors qu'à Paris et ailleurs, elles seront confrontées à l'engagement dans la résistance et à tous les risques qu'elles vont encourir.
Oui. Il y a aussi, c'est aussi, ben, il y a aussi les enfants. Il faut les protéger. On sent que c'est tout l'amour du monde, tout l'amour maternel aussi qui ressort dans votre livre aussi, je trouve.
Ben oui, parce que moi je l'ai éprouvé, c'est-à-dire que Moi, je me souviens même un jour, où, disant à un moment j'ai faim, et l'avoir pleuré en me disant mais mon chéri, j'ai plus rien à te donner. Et les mères se saignaient aux quatre veines pour, ben, il faisait froid pour nous réchauffer, ou même des détails idiots. Moi, je me rappelle, on était à Paris et il y a eu un bombardement. Alors, tout le monde était dans la cave et tout le monde avait été doté de masques à gaz. Et moi, un petit garçon de 4 ans, j'avais un masque à gaz que j'avais jamais mis. Et maman veut me le mettre et d'un seul coup, je ressens encore aujourd'hui le sentiment d'étouffement, le contact froid du caoutchouc. Et maman, alors qu'on était pressé, a eu l'idée de me traîner devant une glace et de me montrer et me dit « Regarde, on dirait Naf Naf, on dirait le petit cochon. » et à ce moment-là, ça m'a fait rire et j'ai accepté de mettre le masque. Oui.
Comme quoi, il fallait parfois peu de choses.
Voilà, peu de choses. C'était vraiment l'imagination maternelle, la tendresse.
Oui. Je sens que dans le roman aussi, j'ai envie de dire dans le roman historique, quelque part aussi, envie vraiment de rendre hommage à ces femmes parce que ça vous a marqué, hein, vous le disiez, vous le racontiez. Mais au-delà de ça, c'est aussi bien insister sur le fait que ce sont des femmes et on le disait, les rapports sociaux sont différents parce que le moment le veut. Mais on sent vraiment un vrai hommage, une vraie tendresse pour ces femmes-là de votre part, Maurice de Kervernoël.
Oui, c'est tout à fait exact. Mais d'abord, j'ai beaucoup aimé ma mère, que malheureusement j'ai perdu plus tard, alors que je n'avais même pas 20 ans. Et c'était une femme remarquable. Mais je pense qu'au-delà de cet amour assez classique d'un fils pour sa mère, je pense que beaucoup de femmes ont été héroïques. Alors ça n'a pas été le cas de toutes. Hein.
Bien sûr.
Les femmes qui ont...
Qui sont mal conduites.
Les Allemands, ce que nous en Bretagne on appelait les poules à boches, qui pratiquaient la collaboration à l'horizontale.
J'aime toujours beaucoup vos façons de dire les choses. Vous avez toujours beaucoup d'humour, c'est très agréable.
C'est du rire, ça aide à vivre.
Et oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, on marquait, hommes et femmes ne se sont pas toujours bien comportés. Hein. De toute façon, c'est l'humain qui est ainsi. Hein. Le bon.
Vous savez, j'ai vécu ça pendant la guerre d'Algérie. Mon père l'a vécu, lui, pendant la guerre de 40. Dans ce genre de situation, c'est parfois très difficile de savoir où est son devoir.
C'est vrai.
C'est très difficile. Vous avez vu que dans ce roman, mon père a été fuyant les Allemands et allant comme officier de marine avec son bateau se réfugier en Angleterre pour continuer la guerre, se fait arrêter par les Anglais, se fait prendre son bateau et que comme 15 000 marins, dont 4 000 officiers, il se retrouve déporté dans un camp et il passe 6 mois en prison avant que les Anglais l'expulsent. En allant un peu plus loin sur la suite du roman, mon père, qui est officier de carrière, n'aura pas vu un Allemand de la guerre. Il sera amené à se battre contre les Anglais, contre les Américains quand il débarque au Maroc, et plus tard contre les Italiens quand il appuie le débarquement américain en Italie. Donc, très souvent, la guerre, si vous relisez Stendhal et Fabrice Del Dongo, à la bataille de Waterloo, il ne sait pas où est l'ennemi.
C'est vrai.
Les situations sont très difficiles. Et je pense que, par exemple, pendant cette guerre, il y a eu une période où les gens ne savaient pas bien s'il fallait être pétiniste, s'il fallait écouter ce général Fénelon qui était en Angleterre et qui disait de venir le rejoindre. Les choses étaient, ça paraît avec le recul facile, mais moi je l'ai vécu comme enfant et je voyais très bien les discussions. Et au sein des mêmes familles, les gens étaient divisés, ils voyaient
bien
pas
sûr,
clair.
C'est clair, oui. Eh bien écoutez, ce qui est clair, je l'espère, c'est que nous allons faire une petite pause musicale et nous nous retrouverons tout de suite après.
Pierre s'alourdissent un peu, mais dans un kilomètre ou deux, après le village au virage, dans un petit bar, il y a du feu. Toi tu dors depuis l'autoroute, fatigué, énervé sans doute, plus qu'un kilomètre peut-être, et puis du café auprès du feu. Je regarde un instant vers toi, tu es presque appuyé sur moi. Un virage à droite, un peu sec, qui te plaque à moi. Je voudrais que ce virage n'en finisse pas. Je redresse doucement, sans à-coups, ton visage sur mon cou. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Dans une heure, on y verra mieux. Le brouillard se dissipe un peu. L'essuie-glace passe et repasse en laissant des traces devant mes yeux. Des lumières au travers des phares. Le village est là-bas, le bar. Retenant ta tête, je m'arrête sur le bas-côté, près du café. Et dans un bruissement d'abeilles, de silence peu à peu t'éveille. Je me sens vidé, fatigué, mais si près de toi. Je voudrais que ce voyage n'en finisse pas. Tu souris brusquement, sans un mot, ta main glisse dans mon dos. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Maurice de Kervernoel pour son dernier roman, La ferme de l'Engoulevent, aux éditions de l'Archipel. Moi, j'ai l'impression aussi que malgré l'adversité, les circonstances, ces femmes-là, elles perdent pas le nord, elles le gardent, elles restent quand même actives, vives. Il faut réfléchir vite, il faut agir vite. Elles sont dans le mouvement, dans le dynamisme. Et pourtant, elles perdent leur repère, leur quotidien au fur et à mesure du temps.
Ben, elles perdent leur repère. En plus, elles sont confrontées, ça a été le cas de ma mère, à des difficultés financières importantes parce que les soldes n'étaient pas payés. Oui. Avec des niveaux de vie différents, et elles sont ramenées à l'essentiel. Si vous voulez, une grande bourgeoise comme était ma mère, d'un seul coup, elle se transforme comme une louve pour protéger ses petits.
Ses petits.
Et elle fait ce qu'il faut pour trouver de la nourriture, trouver de l'essence pour mettre dans les voitures. Et à ce moment-là, on est ramené, je crois, vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire à la survie de ses enfants et de ses proches.
Est-ce que c'est peut-être une réponse, enfin une question un peu bateau, une question de comptoir, mais malgré tout j'ai quand même envie de vous la poser. Est-ce que toutes ces difficultés, ce regard sur votre mère, votre éducation malgré tout, est-ce que cela a impliqué dans l'homme que vous avez été et que vous êtes aujourd'hui?
Je dirais énormément.
Oui.
Je pense que j'ai été très forgé pendant la guerre. D'abord pour une chose, aujourd'hui, je vais peut-être choquer vos auditeurs, mais je suis frappé combien les enfants sont maternés, car la moindre crise, c'est un drame, etc.
Moi, je dirais même très mal élevé, mais bon.
Et je pense que c'est très, très préjudiciable.
Oui.
À cette époque-là, les mères étaient complètement débordées.
Oui.
Maman avait, très vite, elle a eu 5 enfants. Le mari étant pas là, des difficultés financières. Du mal à habiller les enfants, les nourrir.
Oui.
Et on avait une liberté totale. Comme petit garçon, moi je courais n'importe où, on n'était pas surveillés. Et ça a été une... Puis on a appris à vivre le risque. Dans le tome 2, vous verrez le débarquement à des Américains au Maroc.
J'ai hâte.
Ça pilonnait, moi j'étais caché sous un lit.
Oui.
Et ça vous forge une personnalité. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte de l'extrême facilité dans laquelle... une grande partie de la population française vit par rapport à l'époque que j'évoque. Et il y a trop de facilité au niveau des jeunes. Et c'est pas une critique de vieux grincheux.
Non, c'est un constat. C'est un constat.
C'est un constat par rapport à notre génération à nous qui a vécu dans un univers de guerre. Moi, j'ai connu donc la guerre de 40, puis très vite après, on a eu très peur d'une troisième guerre mondiale parce qu'il y avait la guerre froide. Ensuite, il y a eu la guerre d'Indochine, où on a vu tous nos cousins militaires et autres qui partaient se faire tuer ou être prisonniers. Et puis, il y a eu la guerre d'Algérie qui nous a marqués pendant des années et que j'ai fini par faire. Et donc, on a été élevés dans ce contexte de difficultés, de risques. Et par rapport aux générations actuelles qui ont vécu dans un contexte de beaucoup plus grande facilité, avec des mères extrêmement maternantes, avec des portables où on suit qu'est-ce qu'ils font, etc. Je pense qu'ils sont très mal préparés pour l'adversité.
Et
le confinement l'a montré.
Et vous retrouvez, j'allais le dire, face à une pandémie dont vous seriez bien passé. En tout cas, c'est ce que me dit mon papa.
on, on fait fait avec.
On fait avec. Alors, c'est vrai qu'au-delà de cette éducation, de cette force, finalement, probablement qu'elle vous a transmis, l'homme aussi que vous êtes, et puis aussi l'homme qui a fait des études, qui a fait une grande école, qui a travaillé pour de grands groupes, ça vous a aussi permis aussi de vous épanouir, d'aller de l'avant, de vous battre pour y arriver, de trouver votre propre repère, vos propres marques aussi, vous installer dans la vie.
Ben, écoutez, d'abord, il y a une première chose, c'est que malgré ce contexte de guerre, de privation, de peur et tout, moi, j'ai eu une jeunesse très heureuse.
Oui.
J'adorais ma mère, j'ai eu une énorme liberté, et ça m'a donné, alors c'est peut-être mon tempérament, mais ça m'a donné un énorme capital d'enthousiasme.
Mm-hmm.
Ensuite, le sentiment qu'on peut réchapper aux risques et qu'il faut donc les assumer,
oui.
Et que la marche, si vous voulez, c'est une série de chutes évitées.
Mm-hmm.
Et que dans le business comme dans la vie, si on veut progresser, il faut accepter qu'on peut tomber, prendre des risques.
Mm-hmm.
Et donc je pense que si j'ai fait une carrière plutôt satisfaisante, et je me suis retrouvé comme directeur général du groupe Danone, puis
oui.
Patron de tout le groupe Hermès.
Mm-hmm.
C'est probablement aussi, il y a une part de chance, bien sûr,
mm-hmm.
Mais c'est probablement aussi parce que j'ai su avoir de l'enthousiasme, le communiquer aux autres et assumer les risques.
Mm-hmm.
Et vivre, c'est accepter de risquer sa vie, avec raisonnablement, bien sûr.
Bien sûr.
Et mm-hmm. Que la guerre, c'est une école de risques.
Mm-hmm. C'est sûr. Alors... Quand vous écrivez ce genre de roman, bien sûr, il y a une part bien sûr d'autobiographie, mais je suppose aussi qu'il y a des recherches, des documents, peut-être même des documents familiaux. Comment vous l'avez construit cette histoire ?
D'abord, je pars d'un premier schéma,
oui.
Mais très, très rapidement, je suis entraîné par mes personnages.
Oui.
Alors, moi, j'aime bien être concret, donc ensuite, j'ai acheté beaucoup, beaucoup de livres en librairie ou sur Amazon concernant cette époque. Et donc, je suis d'ailleurs submergé de bouquins dans ma chambre parce que je ne voulais rien raconter qui soit inexact.
Bien sûr.
Et donc, j'ai eu une très grosse documentation. Je me suis servi aussi sur le net Wikipédia, sur Google, vous trouvez énormément de renseignements.
Oui, tout à fait, oui.
Et donc, mais basiquement, je pars d'un schéma et ensuite, je me laisse guider par ma plume et je fais un premier jet.
Mm-hmm.
Et une fois que ce premier roman est écrit... Je le retravaille complètement une deuxième fois.
C'était un projet qui vous tenait à cœur de parler de cette période et de ces personnages, de ces femmes ?
Pour être tout à fait honnête, ça ne m'était pas venu à l'idée.
Oui.
Et c'est quand j'ai fini Les Braises du Souvenir, que j'en parlais avec mon éditeur que j'aime beaucoup, Jean-Daniel Belfond, qui appartient à une grande famille d'éditeurs,
oui.
Et qui me faisait parler sur ma vie et qui me disait « Vous avez une vie extrêmement riche, mais pourquoi n'évoquez-vous pas la guerre ?» Et à ce moment-là, je me suis dit « Mais au fond... » Il a raison, et non seulement la guerre, mais puisque j'ai vécu la guerre au travers de femmes et élevé et choyé par des femmes,
mm-hmm.
je vais l'aborder sous l'angle féminin.
Oui, c'est une très bonne idée. Alors, vous parliez de d'autres tomes, hein, donc il va y avoir une suite pour notre plus grand plaisir. On va continuer donc l'aventure de ces femmes-là, je suppose. On va continuer l'exode, et puis il y aura d'autres épisodes également.
Oui, alors si vous voulez, le deuxième tome couvrira de novembre 42 à 44.
Oui.
Il est écrit et il sera publié à la fin de l'année ou tout début de l'année prochaine.
D'accord.
Et j'ai rédigé la moitié du troisième tome qui couvrira la période depuis le débarquement du 8 juin 44
mm-hmm.
jusque fin 45, début 46 avec le retour des déportés, etc., Et tout le problème de la France à la fin de la guerre,
oui.
Que j'ai vécu, alors pour le coup, étant plus vieux et très, très, très conscient de ce qui se passait.
Oui.
C'est une époque très difficile.
Alors, votre livre là, est sorti maintenant il y a quelques temps, mais c'est vrai que je suis contente d'en parler aujourd'hui parce que ça va être bientôt... alors, il y aura moins de festivités cette année, mais du 6 juin 1944, que moi, je suis toujours beaucoup en Normandie parce que ma maman est normande. Donc, c'est une façon de vivre cela. Et puis, progressivement, les différentes libérations... Mais je trouve toujours que c'est très bien de faire ce genre de livre à ce moment aussi, et ça tombe bien, et puis aussi de parler de ces femmes. On aurait pu faire aussi, vous savez, on a fait le mur des justes pour tous ceux qui ont fait de la résistance et autres femmes, mais ces femmes-là, elles pourraient être aussi sur le mur des justes.
Tout à fait, et notamment celles qui ont hébergé cette jeune fille juive,
oui.
fille d'un brillant galériste, et qui s'est retrouvée...
Oui.
Partant d'une vie très privilégiée dans un milieu intellectuel de galeries de tableaux, etc.,
oui.
Et qui brinque d'un seul coup, traqué par les nazis, s'est trouvé en fuite, obligé d'être caché.
Oui.
Et c'est là où il y a eu toute une solidarité.
Mmh.
Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'héroïnes qui n'ont été pas connues. Et depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai rencontré beaucoup de femmes, d'amis qui m'ont dit « Mais ma mère était dans la résistance, ma mère a caché des juifs. » Enfin, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de gens héroïques qu'on ne l'imagine.
Oui. La grand-mère de mon mari était sage-femme et elle a accouché des femmes juives.
Ah bah oui, bah c'est, vous voyez, c'est formidable.
Voilà, ce sont des femmes, mais il fallait bien prendre le relais puisque les hommes n'étaient pas là. Alors c'est vrai, moi j'ai envie de dire que c'est un roman de femmes, on parle aussi bien sûr des hommes, mais est-ce que on dit souvent que c'est un monde d'hommes, mais finalement on se rend compte que c'est un monde de femmes, c'est-à-dire que les femmes face à l'adversité, elles sont présentes, elles sont là, et ce sont les femmes qui dirigent le monde finalement.
Moi, j'en suis profondément convaincu.
Ah, oui.
Je vous dirais que j'ai été un peu un précurseur parce que dans les groupes que j'ai dirigés, très vite, j'ai pris dans mes équipes au comité de direction des femmes.
Mmh.
Parce qu'on s'aperçoit très rapidement, si vous êtes dans un comité de direction, quand vous mettez que des hommes, il y a une espèce de bataille d'ego qui sera brillant, etc.
Oui, je vois.
Si vous me permettez même d'être vulgaire, je dirais... on a l'impression que c'est à qui il y aura la plus grosse quéquette.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Et vous mettez des femmes, et à ce moment-là, les femmes, je dirais, de par la vie qu'elles mènent, où il faut qu'elles nourrissent les enfants, fassent les courses, tout en ayant leur job, etc., elles sont beaucoup plus concrètes.
Mmh.
Et si vous mettez un certain nombre de femmes dans un comité de direction, ben, elles ramènent les discussions à des problèmes opérationnels, et à ce moment-là, les hommes plongent et les suivent dans cette voie-là.
Mmh.
Et donc, moi, je me suis aperçu très tôt... sans idéologie, simplement, de l'intérêt pour le business de mettre des femmes brillantes dans mes comités de direction ou mes conseils d'administration.
Mmh, bien sûr. Vous savez, si on remonte aux sociétés tribales entre 30 et 50 000 ans, l'homme partait chasser et la femme maintenait le foyer, s'occupait des enfants. On a évolué, mais finalement, l'homme travaille et la femme sur soi à la maison, au foyer, aux enfants, à l'éducation. Même si aujourd'hui, dans le monde moderne, les hommes participent plus. Mais au-delà de ça, au travers de l'histoire, les femmes... Le foyer, c'était vraiment le feu. Aujourd'hui, le foyer, c'est la maison. Mais vous voyez, le parabole et le paramètre, il est là, au-delà du temps.
Parce qu'il y avait aussi un aspect force physique. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand vous partiez pour essayer de... à la lance de tuer un auroch, l'homme seul était capable. Donc,
bien sûr,
il y avait une logique de division.
Voilà, ou un coup de massue sur un bison,
voilà. C'est... Alors aujourd'hui, le muscle ne sert pas à grand-chose et l'intelligence de la femme peut s'épanouir.
Voilà, ça fait. Disons qu'il y a toujours des gros bras, mais sans la massue et sans le bison, c'est autre chose.
Ceci dit, ne ramenons pas les hommes uniquement à des gros bras. Vous en avez encore besoin, mesdames.
C'est vrai, mais de toute façon, nous sommes, comment dirais-je, nous
on est complémentaires.
On est complémentaires, nous avons besoin des uns et des autres, bien évidemment, et l'essentiel, c'est de le reconnaître et d'en avoir conscience. Moi, j'ai beaucoup aimé, voilà, je le recommande à chacun, c'est cette ferme des engoulevents, et puis je suis ravie de savoir qu'il y aura un tome 2 et un tome 3. Maurice de Kervernoël, ça a été un vrai plaisir de vous recevoir pour ce nouveau roman aux éditions de l'Archipel. Donc, on vous retrouvera fin d'année et début d'année prochaine pour ce tome 2 de la ferme des engoulevents avec nos héroïnes.
Si vous me permettez de vous appeler Claudine, un grand merci, j'ai été ravie d'échanger avec vous et vos auditeurs.
Eh bien, écoutez, ça a été un vrai bonheur de vous retrouver et je vous dis à très bientôt. Et merci de votre fidélité. Et quant à nous, nous nous retrouvons pour une prochaine émission et je vous souhaite, prenez soin de vous, faites attention à vous. À bientôt.